Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Parlons Rugby. Nous enregistrons aujourd'hui depuis la Cordée, espace de coworking fantasmagorique à Lyon. Ce podcast vous est présenté par Philippe Creux
et par Fabien Cato. Aujourd'hui, notre invité est Jérémy Lecourt. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Jérémy, tu peux nous parler de toi ?
Oui, en deux mots. Je suis développeur depuis une grosse dizaine d'années, une petite douzaine presque. Beaucoup de PHP dans mes premières années, puis très rapidement, j'ai vu la lumière. Voilà, j'ai décidé de changer. Je suis autodidacte, j'apprends beaucoup par moi-même, beaucoup par la lecture, par l'expérimentation, etc. Et depuis maintenant 4 ans, quasiment 4 ans, dans un mois, je travaille dans une équipe qui développe le site Hôtel-Hôtel. Voilà,
ouais.
Donc on fait tout ce travail de développement en interne. Et on s'amuse beaucoup avec ça, on fait beaucoup de rugby.
Alors, tu nous expliques déjà, Hôtel-Hôtel, à quoi ça sert ? Pourquoi Hôtel-Hôtel ?
Alors, Hôtel-Hôtel, c'est un comparateur, ou on appelle ça en anglais un meta-search. En fait, c'est un système qui va utiliser des... se connecter sur les centrales de réservation de l'hôtellerie, les plus connues étant Booking, Hôtel.com, Voyage SNCF, Expedia, etc., tous ces gens-là qui vendent des chambres d'hôtel, nous, on va agréger leur catalogue, faire fusionner tout ça et les interroger ensuite pour savoir quels sont les hôtels disponibles à un endroit donné, à quel prix, et quand ces hôtels sont, et c'est souvent le cas, vendus par plusieurs centrales de réservation, ça nous permet de comparer les prix. Donc ça a trois gros avantages. C'est d'une part que on a un catalogue beaucoup plus vaste que si on en prend un seul.
Plus d'hôtels, plus d'offres.
Voilà, beaucoup plus d'offres. Mm-hmm. En France, par exemple, le plus gros a 8500, 9000 hôtels à peu près. Et au total, nous, on n'a pas loin de 20 000 hôtels en France. Donc c'est vrai que ça fait une grosse augmentation du catalogue.
Et même si c'est en double ou en triple, du coup, on peut comparer les prix.
Exactement.
Et prendre le plus intéressant.
Exactement. Il y a ensuite l'intérêt de la disponibilité, parce qu'il y a des hôtels qui ont épuisé leur stock chez un des canaux de vente qui sont choisis, mais pas l'autre.
Ah.
Par exemple, le Sofitel peut être dit complet chez Voyage SNCF, mais chez Hôtel.com, il va y avoir encore des chambres. Donc en fait, les hôtels ne sont pas forcément complets quand un vendeur dit que ça l'est. Donc on augmente la disponibilité. Et puis après, on a le bénéfice de prix. Parce qu'on a des écarts de prix significatifs entre les différents vendeurs. Plus les chambres sont chères, plus les écarts sont importants, évidemment. Mais on a constaté en moyenne que sur une chambre double, on a 14% d'écart, 14-15% d'écart. Et c'est la même chambre, c'est la même clé, c'est les mêmes thés d'oreiller, c'est le même petit-déj. c'est vraiment la même chose, sauf qu'on ne l'achète pas au même prix. Voilà. Donc on a cet intérêt prix. Voilà.
Et j'imagine que ces écarts ne sont pas toujours les mêmes
Non, de loin pas. C'est beaucoup une question de choix d'hôteliers qui vont...
De négociation.
Y a les très gros qui arrivent à négocier des meilleurs prix. Et puis après, il y a aussi des phénomènes de niche sur certains types d'hôtels avec des négos particulières, etc.
Donc c'est un projet que tu as démarré il y a 4 ans à peu près ?
Alors c'est un projet que j'ai rejoint effectivement il y a 4 ans, qui a été démarré par l'ancien DG de Cityvox, qui a démarré ça après avoir vendu ça. Je suis arrivé au tout début, ouais, j'étais pas le premier développeur, j'avais déjà un collègue, Christophe Moins, qui avait commencé, mais c'est moi effectivement qui me suis occupé tout de suite des débuts de ce qui allait devenir Hôtel-Hôtel, et qui participe à ça depuis presque 4 ans.
Alors il y avait quoi à l'époque ? Il y avait déjà du code ?
Non, il n'y avait rien du tout à l'époque. Il y avait déjà dans l'équipe donc Christophe qui travaillait sur un autre de nos sites qui s'appelle Chambre à part, qui est positionné sur les gîtes et chambres d'hôtes, avec un axe un peu différent, pas du tout comparateur, mais qui était développé effectivement en PHP avec du Symfony en framework. Et moi, je suis arrivé là-dessus, j'avais déjà une expérience Ruby, Rails, sur du site web communautaire, etc. Et j'ai, entre guillemets, dit, voilà, moi, je voudrais faire ça avec mes outils de prédilection. Et comme j'ai travaillé tout seul sur ce sujet-là au début, c'était pas un problème. J'avais la confiance de l'équipe. Et rapidement, après, j'ai plus été tout seul. Et donc, on s'est tous raccrochés sur le wagon Ruby.
Alors ça, c'était en quelle année ?
Alors j'ai une extraordinaire mauvaise mémoire des dates, mais c'était quasiment il y a 4 ans, quoi. C'est ça, c'est 2009, c'est l'été 2009, voilà.
Et donc la première version, finalement, vous avez pu la sortir au bout de combien de mois ?
Alors on a d'abord sorti un premier prototype qui n'était pas du tout public, qui est sorti en 4 mois à peu près, dans lequel on essayait de convaincre des partenaires ou d'autres systèmes d'utiliser notre truc. On n'était pas forcément tout de suite sur un outil grand public.
Qui se connectait à combien de catalogues ?
À ce moment-là, ça devait être 5 ou 6. Il y avait tout de suite Hotel.com, Vénéré, Booking, Expedia, etc.
Plus un proto alors qui était là pour convaincre.
C'était un prototype qui était là pour montrer effectivement que ça pouvait marcher et quel intérêt ça pouvait quel intérêt ça pouvait avoir pour le consommateur sur les trois axes que je citais tout à l'heure.
Valider donc, son business.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc je sais plus, c'est à l'automne, on a sorti un premier prototype. Rapidement après, on a eu un premier site public très brut, etc. qui au bout de un an et demi, deux ans, s'est retrouvé sous l'entité Hotel, avec une refonte complète d'interface, etc.
D'accord. Donc au niveau du code, vous avez donc créé ce prototype, vous avez continué de travailler sur cette base de prototype.
Ça c'est une chose, effectivement, on pourra revenir là-dessus, mais on a un prototype qui est devenu un outil de production, et ça c'est il y a matière à discuter de ça, parce que on a fait ce choix-là, qui a des bons et des mauvais côtés. Mais oui, effectivement, le code, mes premières lignes de code sont probablement toujours utilisées en production aujourd'hui, surtout dans la gestion du catalogue et les premières gestions de web services.
Mais déjà, ça a été un choix. C'est-à-dire que vous vous êtes posé un moment, vous avez dit, c'est un proto, est-ce qu'on...
Quasiment, on s'est pas mis autour d'une table pour décider est-ce qu'on continue avec ce proto ou est-ce qu'on refait. Mais c'est dans le feu de l'action, on a dit bon, on continue, et puis à un moment donné, on
le
avait
proto
ça.
Est devenu produit.
Le proto est devenu produit. Mm. C'est a priori quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si je le regrette vraiment, parce qu'on est toujours là 4 ans après, mais
ça s'est bien passé.
Ouais, on paye encore aujourd'hui.
Quand tu dis que c'était un proto, c'est que peut-être que vous pouvez le regretter, c'est que c'était vraiment une grosse dette en fait.
Non, c'est que c'est certaines interfaces qui sont aujourd'hui ne visibles plus que par nous, parce que sur des outils de back-office, des algorithmes, des choses comme ça, qui sont toujours en action, mais qui sont extrêmement brutes, qui sont pas du tout léchées, qui étaient là pour juste montrer que ça marche, et on les a fait évoluer, évidemment.
Interface
utilisateur,
sens,
notamment.
Interface utilisateur.
Et puis aussi des composants, des modèles, des algos, des enchaînements, des trucs comme ça, des workflows qui sont toujours là.
T'as des bouts de code qui n'ont pas de specs et pour lesquels il faut se référer à,
oui,
à celui qui sait, l'oracle.
Beaucoup, et c'est préjudiciable, et c'est un problème. Des fois, c'est un problème, le facteur bus, combien de personnes dans l'équipe peuvent se faire écraser par un bus sans que ça apporte préjudice à la boîte, il est grosso modo de 1, quoi. Mm-hmm. C'est la pire chose possible,
mais il fallait surtout lancer la boîte.
Il fallait surtout lancer le truc, il fallait que ça avance, il fallait que ça marche, et ça marche, et c'est ça qui est bien.
Finalement, quand on va sur hotelhotel.com,
ouais,
l'application qu'on utilise, à la base, c'était le prototype.
Non, hotelhotel.com a été refait au bout de 2 ans, a été fait, le site web public a été fait au bout de 2 ans, à partir de zéro, c'est une application toute neuve, mais il y a beaucoup de code en support, du code de gestion de catalogue, du code d'interrogation des web services, des partenaires, etc., qui lui est toujours du code, on va dire, historique.
Mm-hmm. Mais entre deux, il y a des interfaces.
Pas forcément, ouais. Ça dépend, mais...
C'est les choses isolées, identifiées... Et du coup, si un jour vous voulez réécrire, il y a déjà le travail qui est fait.
Une partie, il y a une partie. Et puis il y a un travail de séparation qui a commencé à un moment donné et qui n'a pas été mené à 100%. Donc il y a des choses qui ont été migrées et puis d'autres qui sont toujours dans l'ancien système. Donc de temps en temps, on a des utilisateurs dans la boîte qui manipulent les données et qui nous disent bon, en fait, ça c'est où que je vais déjà apprendre à modifier ce truc-là selon les différentes tables ou les différents modèles, ça se modifie dans des applications différentes.
Donc vous avez eu comme ça une évolution sur 4 ans de l'application,
oui.
Avec une première version qui j'imagine était relativement simple.
Mm-hmm.
Au fur et à mesure, vous avez dû rajouter des briques,
oui,
et avoir une complexité.
Absolument. Et, alors la complexité, elle est venue par deux axes. Le premier, c'est l'augmentation du nombre de marchands, de partenaires avec lesquels on travaille, mm-hmm, aussi bien sur des problématiques de catalogue que des problématiques d'interrogation de dispo et prix. Quasiment en temps réel. Et puis le deuxième axe, c'est le site web qui est l'interface utilisateur grand public, sur laquelle on a rajouté des fonctionnalités au fur et à mesure pour apporter de la valeur, apporter des raisons d'utiliser Hotel plutôt que d'aller directement sur un autre système. Voilà.
Donc, okay. Donc les catalogues, ça va être des genre de fichiers, XML, JSON, je sais pas.
Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Donc on a aujourd'hui 16 marques, on a 12 ou 13 catalogues différents. Il y en a, c'est un gros fichier XML de 2 gigas qui est compressé, qu'il faut télécharger, il faut parser, il faut injecter. Il y a beaucoup de cas où c'est du CSV. Il y a des cas où c'est du CSV complètement custom, avec des séparateurs bizarres, ou des règles tordues, etc. Il y a des cas où c'est des web services qu'on interroge pour obtenir des infos. Il y a des cas où c'est des infos qui sont complètement groupées avec un gros paquet XML dans la description d'un hôtel, par exemple. Ouais. Et il y a des cas où on a des points d'accès multiples en fonction du type d'infos qu'on veut. Donc, il faut faire plusieurs requêtes pour avoir toute l'information sur un hôtel. C'est d'une hétérogénéité surprenante et fatigante.
Il y a d'un côté de l'information fraîche, parce qu'il y a un web service qu'on peut aller consulter, et de l'autre côté, il y a de l'information qu'on sait pertinemment, pas obsolète, mais le fichier CSV dont tu parles.
Les hôtels, le catalogue d'hôtels, c'est-à-dire l'identité des hôtels, quelles sont leurs adresses, combien ils ont d'étoiles, est-ce qu'ils ont une piscine ou pas,
des
photos, ça change pas trop dans le sens où c'est pas toutes les heures que ça change, mais on a des mises à jour quotidiennes sur les bases.
Mais les disponibilités alors.
Voilà. Les disponibilités, oui, ça c'est du flux, tendu. Nous, on estime que l'information d'un prix et d'une disponibilité pour un hôtel a de grandes chances d'être périmée dans le quart d'heure. Donc effectivement, quand un internaute dit va cliquer sur le bouton trouver pour avoir les prix dans une ville à une date donnée, quelques minutes plus tard, quelqu'un d'autre qui vient cliquer sur le bouton avec les mêmes critères, on va refaire les requêtes. D'accord. Systématiquement.
Mais donc on est obligé de faire une hypothèse. L'hypothèse est, dans un quart d'heure, on peut raisonnablement penser que c'est toujours, l'information est toujours valide, que personne d'autre n'a pris la place.
Oui, alors après, il y a
c'est un pari, quelque part.
C'est un pari, oui, et c'est un pari qu'on peut faire dans certains cas de périodes assez proches, sur des grosses villes, avec des fortes demandes sur certains hôtels, etc. Mais c'est aussi un truc compliqué, parce qu'on a plus de 450 000 hôtels dans le monde. Les critères qui déterminent la réponse que va donner un partenaire sont multiples. C'est la date d'arrivée, la date de départ, le nombre de personnes. Il y a des tas d'autres choses, et comme les centrales répondent en bloc, c'est pas hôtel par hôtel, si tu veux, la réponse qui correspond à la requête d'un internaute, elle a très 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 peu de chances d'être réutilisable dans le quart d'heure par quelqu'un d'autre. Et donc mettre en place du cache sur des comptes qui sera pas utilisé, ça peut être plus compliqué que de pas avoir du cache. Et en même temps, il y a des sous-cas dans ce que je décris là, où il y a des bonnes raisons d'utiliser du cache, mais c'est pas évident de discerner les cas où c'est pertinent, les cas où ça l'est pas, etc. Si on devait mettre en cache pendant un quart d'heure toutes les requêtes qu'on fait, on aurait des volumes de mémoire consommée dans du même cache ou autre qui seraient vraiment très 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 importants, quoi. Donc,
et avec très peu de chances, en fait, que quand
de réutiliser,
le cache.
Et l'invalidation du cache est un des principaux problèmes dans l'informatique. donc voilà, on est plutôt très conservateur là-dessus. Ça nous coûte, forcément, parce que c'est des ressources importantes. On peut pas donner l'information très très vite à l'internaute. Et nous, en tant machine, on a des machines qui sont occupées en permanence à faire des requêtes.
Et pourtant, l'utilisateur ne peut pas attendre. Comment est-ce qu'on...
Il aime pas attendre. Alors, comment on gère ça? On essaie de donner le plus possible d'informations, le plus tôt possible à l'internaute. Notamment, nous, on sait d'avance quand il dit « je voudrais aller à Lyon le 20 juin parce qu'il va y avoir une conférence Ruby fantastique. » Bon, il dit « je veux trouver un hôtel. » Bon, on sait quels sont les hôtels qu'il y a à Lyon. Éventuellement, s'il a fait une restriction sur une zone, on peut lui dire « voilà, il y a ces hôtels-là. » Et nous, on sait, on a plus ou moins un prix de référence pour l'hôtel. Donc, on peut lui donner un positionnement moyen de coût d'hôtel. On peut lui donner des informations de type photo, combien d'étoiles, les adresses. Il peut trier tout ça, voir ça sur une carte. Et pendant ce temps-là...
À vous anticiper...
C'est-à-dire qu'on lui donne tout de suite l'information qu'on a déjà. Et on va calculer, on va interroger les partenaires pour avoir les prix. Et on essaye de lui injecter les prix au fur et à mesure dans sa page, en fonction de la pagination sur laquelle il est, de l'ordre de tri, est-ce qu'il est sur la carte, est-ce qu'il est sur la liste, etc. On essaye de lui rajouter l'information pour qu'il n'ait pas l'impression de poireauter devant une barre de chargement, comme c'est le cas malheureusement sur beaucoup de systèmes avec des recherches longues. Parce que quand on fait une recherche sur une très grosse ville type Paris, Rome ou Berlin ou Londres, le temps que tous les partenaires répondent, il peut se passer des minutes entières.
Et donc pendant ce temps-là, vous l'invitez à faire, à raffiner son choix, par exemple sur la zone géographique, ce qui est...
Éventuellement, alors ça lui fera pas arriver ses informations plus vite, enfin les informations de prix plus vite, mais en tout cas, ça va l'occuper, ça va lui permettre d'affiner son choix, enfin d'acquérir plus d'informations pour choisir son hôtel. Le prix n'étant que une information supplémentaire importante, mais c'est à peu près à égalité avec la localisation de l'hôtel, son prix.
Avec le niveau de prestation.
Et le niveau de prestation, etc. Alors après.
On peut avoir sur les chambres, voilà, ça en cash.
Ça, c'est super important. Oui, oui, ça. Alors les photos, on les a sur nos serveurs. On ne va pas les demander chez les partenaires. On a des copies, etc. Il y a aussi des choses intéressantes aussi sur les avis, hein, parce qu'il y a de plus en plus de sites qui collent des avis. Alors quand on peut, on récupère. Les centrales sont très, très protectrices de ces données qui sont les leurs sur les avis, etc. Donc on ne peut pas toujours les utiliser, mais quand on peut...
C'est leur gain-pain, c'est ce qui fait leur valeur.
Ouais, c'est ce qui fait... c'est ce qui donne une raison à l'internaute d'aller sur leur site, plutôt que d'aller sur un comparateur comme nous.
Ou plutôt que d'acheter en direct, où l'hôtel va forcément dire qu'il est bien, puisque c'est lui.
Oui, alors après, l'hôtel, il ne se vend pas forcément en ligne. L'hôtel, il est souvent plus cher que sur une centrale de réservation. Il n'est pas... Enfin, l'achat en ligne, c'est pas si souvent que ça que les hôtels ont un système de vente en ligne plus une vente par des canaux de type centrale de réservation. Ça arrive, évidemment, mais c'est pas...
Est-ce qu'il y a des systèmes prédictifs ? C'est-à-dire, sachant l'enchaînement de clics, là, par exemple, Rhône-Alpes... Lyon, puis ensuite tel quartier, a priori l'utilisateur va me demander ensuite des prix là-dessus, donc j'anticipe sur quelque chose que l'utilisateur va peut-être me demander en faisant un pari.
Non, on fait pas ça. Non. J'avoue qu'on fait pas ça, et il y aurait des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Il y aurait des choses sur du pré-calcul, peut-être pas forcément sur la séquence d'un internaute en particulier pour prédire quel va être son clic d'après, mais peut-être aussi pour prédire sur des questions de période, sur des questions de saisonnalité, sur des questions de qu'est-ce qui se passe dans telle ville à tel moment, est-ce qu'on peut pas essayer de générer l'information. De même que donner des prévisions, une sorte de météo de l'hôtellerie. À 15 jours ou 30 jours, telle ville, ça va être blindé, il faut s'y prendre à l'avance, ça va être super cher, mais on peut vous conseiller d'aller un peu en périphérie, il y a des bons transports en commun. Des choses comme ça qu'on pourrait apporter et qu'on a vocation à apporter, mais qu'on fait pas assez aujourd'hui. Mais...
Apporter du contexte à l'utilisateur.
En fait, notre raison d'être, c'est, et c'est un peu notre slogan officieux, c'est de mettre de l'ordre dans ce bordel, et d'apporter de l'information par-dessus ce qui est disponible par ailleurs. Voilà, donc une information claire et la plus complète possible.
Tu disais tout à l'heure qu'il y a des centrales qui mettent jusqu'à 90 secondes, plusieurs minutes, avant de répondre. Les premières réponses, elles mettent combien de temps à arriver ?
Ça dépend. En fait, tu as les centrales, par exemple, même si tu leur demandes 1000 hôtels, elles vont te répondre 20 par 20, donc il faut redemander à chaque fois, etc. Ouais. Donc si tu mets 2-3 secondes à chaque fois et que tu sais 20 par 20 et que tu en veux 1000, forcément, ça prend du temps.
Et malgré tout, l'utilisateur, lui, va voir les premières réponses.
Exactement. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille en permanence sur l'amélioration pour que on donne le plus possible l'information à l'internaute, enfin, saucissonnée, découpée, pour qu'elle arrive le plus tôt possible. Là, on travaille sur des évolutions qui vont permettre, par exemple, d'interroger les centrales sur les hôtels qui sont présents sur les 2-3 premières pages en priorité, avant de demander les autres, parce qu'on sait qu'il y a des chances que, pendant au moins un certain temps, l'utilisateur reste sur les premières pages, sur le tri par défaut, etc. etc. Donc, si on lui donne le plus vite possible ces prix-là, ben, ça va lui plaire.
Je trouve ça plutôt vertueux de la part de ces centrales d'imposer que le rapatriement se fasse par l'eau de vin, parce que de toute façon on ne va pas présenter 1000.
Mais ça dépend, il y a des centrales qui me donnent 1000 hôtels d'un coup et c'est très très bien, elles répondent très vite et elles ne sont pas toutes égales devant ces problématiques de web service. Elles n'ont pas toutes le même niveau de compétence, de qualité. Il y a des centrales qui ont 2, 3, 4 personnes en équipe de dev, et puis tu en as qui ont 250 personnes qui font des trucs fantastiques.
Mais au final, si l'information est hautement périssable, de toute façon, tu ne vas pas présenter plus de 50 prix sur une page que tu vas présenter.
Bah oui et non, si tu veux aller à Paris, que tu sais pas forcément dans quel quartier, mais que tu sais quelle date, etc., bah, à Paris, il n'y a pas loin de 2000 hôtels, en tout cas, que nous, on référence. L'utilisateur, s'il dit juste « je veux aller à Paris à telle date », il faut qu'on lui donne tout, quoi. Il faut qu'on lui donne les 2000 hôtels. Parce que comment est-ce qu'on sait lesquels ne pas lui donner, quoi. Tu vois, sous quel discriminant pour dire « c'est ceux-là qu'on te donne et pas ceux-là ». On peut pas savoir d'avance ceux qui sont dispo ou pas, on peut pas savoir d'avance... Voilà. Alors, bah là, on travaille notamment sur des principes de moteur à facettes qui vont permettre de dire, voilà, je sais que j'ai 30% d'hôtels qui sont dans cette gamme d'étoiles, on va présélectionner ça avec des chargements dynamiques,
raffinement, etc. On voilà. peut avoir un arbre équilibré. Enfin,
voilà, ouais.
Peut-être au niveau des avis aussi. Je sais pas si vous aviez les avis, ce n'est pas très très ouvert. Vous n'y avez pas trop ton accès, mais malgré tout...
Alors nous, on arrive à créer une note composite qui est notre propre score, qui est une recette un peu interne, qui n'est pas vraiment une recette secrète, mais on fait peser plein de critères pour donner une note à l'hôtel. Et évidemment, la synthèse des avis que nous donnent les centrales sur un hôtel est primordiale pour ça. Et c'est notre critère par défaut de tri. Ouais. Donc on sait par exemple que la première page, ça va être les hôtels les mieux notés de qui respectent les autres critères. Tu dis, je veux aller à Paris, on va te donner les hôtels qui ont une note pour nous entre 9 sur 10 et 10 sur 10, quoi, parce que les 10 premiers sont les meilleurs a priori, mais on essaie d'orienter sur la qualité. Quoi.
Okay. Et pour revenir aux API finalement des centrales, qui mettent plusieurs minutes à répondre, ouais. S'il y a une centrale qui met toujours une minute à répondre, c'est impossible, enfin pour moi, hein, ça me paraît impossible que l'utilisateur passe par cette centrale, il ne va pas attendre une minute.
Eh bien écoute, ça dépend, parce que s'il navigue, s'il cherche, il ne va pas attendre de voir que le prix s'affiche. Simplement, à un moment donné, il va peut-être tomber sur la page 4, triée par distance par rapport à un point de référence qui l'intéresse, ouais. Et puis il va voir un certain nombre d'hôtels, 10 ou 20 sur sa page, selon, et puis peut-être qu'à ce moment-là, il va voir un hôtel qui sera vendu par cette centrale, le prix, il le verra. Okay. À ce moment-là, il ne l'aura peut-être pas vu dans les premières secondes parce que le truc était mis en attente, le prix est en cours, mais peut-être que 2-3 clics plus tard le prix sera là et là il le verra. Ce qui est intéressant, je trouve que c'est bien, c'est ce côté on fait pas poireauter l'internaute derrière une barre de progression où il a aucune information et ça continue après.
Ouais. Les internautes, ils passent combien de temps en moyenne à trouver un hôtel?
Je sais pas.
Parce que justement, vu que tu dis peut-être qu'il arrive à la page 4 et entre-temps, ouais. Le prix a été chargé, on peut imaginer que l'internaute doit passer une minute, deux minutes à passer sur les différents.
Je pense que c'est au moins de cet ordre-là, c'est peut-être plus. J'ai aucune idée précisément, aucun chiffre précis là-dessus. On sait qu'on a quand même Google Analytics, par exemple, nous donne des informations sur des temps de surf par internaute qui sont de l'ordre de une grosse poignée de minutes quand même. Hein. Voilà, après aussi, on a une grosse partie éditoriale sur le site. Les gens viennent lire aussi des choses pour comprendre un peu où ils vont mettre les pieds quand ils vont dans une ville qu'ils connaissent pas. On fait un gros, gros, gros travail là-dessus. On a une super équipe édito. Et y a de la lecture, forcément. Il y a des compléments entre la lecture et les listes réponses d'hôtels, etc.
Voilà. Au niveau technique, vous avez quoi comme service que vous pouvez utiliser derrière, la technologie marrante?
Alors, on teste beaucoup de choses, on met beaucoup de choses en prod, des fois on remet en question au bout de quelques mois, quelques années, des choses qu'on a utilisées au début. Je sais pas, alors pour commencer par les questions Ruby et Rails, on a beaucoup de choses qui tournent sur du Ruby 1.8.7, beaucoup en Ruby Enterprise Edition, mais pas que. On a mis en prod, il y a quelques jours, une appli qui tourne sur du Rails du Ruby 2.0.
Une appli interne?
Non, c'est une appli. Alors, c'est pas un site web, mais c'est une appli qui est utilisée. C'est une API. On a des choses qui tournent en Ruby 1.9. On a des choses. Alors, on a encore rien en prod sur du JRuby ou sur du Rubinus, mais sur du JRuby, ça pourrait arriver, notamment pour des questions de gestion de process, de multithread et des choses comme ça qui sont intéressantes. Au niveau de Rails, nos premiers codes tournent sur du Rails 2.3, qui sont évidemment à jour en termes de page de sécurité, mais c'est Rails du 2.3 quand même. Qui sont plus des applications publiques. Sinon, on a beaucoup de choses en Rails 3, 3.0, 3.1, 3.2. Et là, on a cette appli qui tourne là en prod depuis quelques jours sur du Ruby 2. C'est du Rails 4 en version bêta.
Et alors, pour vos équipes, pour jongler entre ces différentes versions, c'est pas trop le mal de tête?
Alors, si, un petit peu des fois. Ça dépend de l'intérêt qu'on porte aux outils qui permettent de faire ça. Mais globalement, ça se passe quand même super bien. On a beaucoup utilisé RVM. On est passé RB1, que ce soit en dev ou en prod. C'est super bien. Ça marche vraiment très bien.
Spécialement au niveau technique, au niveau humain. Ben, moi, j'ai à jongler entre Rails 3 et Rails 1. Assez régulièrement.
Ah bien, j'ai abandonné ça. Reste.
Et régulièrement, ma remarque, c'est « Ah oui, c'est vrai, ça n'existait pas. »
Oui. Alors oui, si tu veux. Mais là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas, dans une situation de prestat de service avec des clients sur des projets sur lesquels on est pendant quelques mois. Ça fait 4 ans qu'on bosse à peu près les mêmes personnes sur du code, on a une connaissance intime, si tu veux, de tout ce qu'il y a sous le capot. Et oui, des fois, on se demande, est-elle appli, elle est en 3.1 ou en 3.0 oui, alors ben, on regarde le gemfile et puis on voit bien, et puis en fait, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et en réalité,
non seulement vous connaissez les API, par exemple, à interne à Rails, mais vous avez en mémoire les différentes versions pour pouvoir jongler entre l'une et l'autre.
Ouais, alors après, on lit beaucoup, on retourne beaucoup dans la doc, on regarde. Ah ben tiens, il y a une erreur parce que le test il passe pas, parce que tel helper dans Rails il lit pas dans cette version, ou sa signature de méthode est différente. Oui, ça arrive tout le temps, mais c'est pas trop un problème. Et puis même, en réalité, je dirais que la couche Rails en soi n'est pas la plus grosse partie du code qu'on produit. On produit beaucoup de code Ruby qui est branché sur du Rails.
Beaucoup de services.
Mais ouais, on produit vraiment énormément de code qui est pas du Rails au sens des méthodes de contrôleur, des méthodes de modèle ou des méthodes de helper, de vue ou des choses comme ça. Ça, c'est relativement stable. Ça évolue, évidemment. Mais voilà.
Alors, c'est plutôt de la lib appelée dans Rails ou plutôt des services avec une communication via un protocole quel qu'il soit.
C'est de tout. Alors, on a beaucoup de choses qui tournent dans du delay job ou dans du rescue, par exemple, des tâches de fond. Donc, on a des systèmes qui mettent dans des queues des tâches à réaliser et qui sont traitées ensuite soit par d'autres applis, parce que, par exemple, on a plusieurs applications aujourd'hui qui font tourner notre système. Il y a des applis, par exemple, qui gèrent le catalogue et qui disent, je notifie que tel hôtel a été modifié, puis je donne les informations, puis t'as un job de l'autre côté qui va prendre le truc et qui va l'indexer dans Solaire ou dans Elasticsearch, les modifications. Donc c'est multi-appli, mais ça passe par un bus, en l'occurrence du Rescue avec du Redis par exemple, mais ça pourrait être de la MQP ou ça pourrait être du ZMQ ou des trucs comme ça. Voilà, on a des communications comme ça, on a après des communications par fichier ou des communications directes dans l'appli, avec des libs qui sont... Alors on a une base de données, en termes SQL, on a une base de données qui est utilisée par plusieurs applications, qui interagissent avec les mêmes tables et les mêmes colonnes et les mêmes trucs. Donc ça c'est de la jungle un peu prise de tête des fois, surtout quand tu as du code Rails 4 qui va taper dans les tables, qui est manipulé par du code Rails 2.
Ouais, okay. Tu peux même pas partager ton code de modèle.
Alors si, en partie. Alors on a écrit des gemmes internes qui font du refactoring, qui mettent à disposition des modules qui sont injectés dans les applications en fonction de ce dont elles ont besoin, et avec toute la prise de tête que quand tu écris un scope ou une méthode ou autre dans un modèle, la syntaxe pour Rails 4 est pas la même que pour Rails 3, que pour Rails 2. Donc il y a des choses qu'on peut pas utiliser dans tout, on peut pas tout refactoriser.
Alors est-ce que du coup ça t'amène à penser à ta base de données comme un service interne dans le cadre des montées en version, typiquement quand t'as un service et puis par exemple une application Rails qui utilise ce service qui est une montée en version, tu dis il va y avoir des problèmes de compatibilité parce qu'à un moment je serai sur une ancienne version et puis je vais monter et...
Alors, pas dans la base de données, dans des librairies ou dans la couche modèle ou des choses comme ça, oui, mais pas dans la base de données, non, on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là. Notre structure de données est très très stable.
Elle reste stable.
Ouais, et on n'a pas de notion de, tiens, d'un coup, reste dans cette version-là, permet de faire ça, dans la base de données, exploite ça dans la base de données, et notre base, elle n'est pas compatible avec ça, faudra migrer ceci ou cela, on n'a pas eu... On n'a pas eu ces choses-là.
Vous êtes plutôt conservateur sur
cette
base de données qu'elle est utilisée par des anciennes versions de Rails.
Non, c'est surtout qu'on n'a pas de raison, on n'exploite pas des choses qui nécessiteraient de faire des changements dans les schémas. Quoi.
Votre business est toujours basé sur les mêmes données, donc
c'est pas la même chose. Oui, ou en tout cas, les différences de versions d'outils ne nous poussent pas à trop modifier ça. Voilà, bon après, tu me posais la question sur les technos rigolotes. Dans notre panel, donc on a beaucoup du MySQL. Le gros volume de données, c'est du MySQL.
C'est pas très marrant.
C'est pas spécialement marrant. Ça marche très très bien, les bases relationnelles, pour faire un certain nombre de choses. Après, on a touché à des problèmes des limites du modèle relationnel. Donc, on utilise aussi beaucoup du Redis, par exemple. On est des gros fans de Redis.
Ça m'intéresse. À quelle limite, justement, avec les bases de données relationnelles? C'est quand vous êtes monté en volume de données?
Non, c'est pas forcément un problème de volume. On a des bases avec 150 millions d'enregistrements dans des tables MySQL.
Ça se passe bien.
Ça se passe bien. Ça peut être un problème. Après, ça dépend des opérations que tu fais.
Il y a des types de requêtes, il y a des schémas particuliers qui posaient problème.
Il y a des choses qu'on voulait faire et qui étaient très lentes. Par exemple, avec Redis, tu peux faire très très facilement et sur des volumes importants avec un niveau de performance très élevé de l'intersection ou de l'union de listes ou savoir est-ce que telle chose est dans une liste ou pas, tu la rajoutes, tu as des listes ordonnées, donc tu les mets, tu sais qu'elles vont être dans une position donnée, etc. Des ensembles triés, si tu veux mettre des personnes avec un âge et que tu veux prendre les... Enfin, il y a des tas de choses.
Alors,
comme ça dans Redis.
Intersection, par exemple, pour chercher un hôtel qui répond à plusieurs critères, je voudrais un hôtel qui soit à Lyon.
Non, alors, en l'occurrence, non. Non, on n'utilise pas Redis pour des choses comme ça. Sur, par exemple, on utilise un petit peu des informations en provenance de Facebook, sur des histoires de likes. Tu t'es connecté, puis tu as des amis, qui sont tes amis, on sait quels sont les likes de tes amis, est-ce qu'il y a des hôtels là-dedans. Et du coup, on peut présenter l'intersection entre les hôtels que tu consultes et des hôtels qui ont été aimés par des amis dans ton réseau Facebook, et on va te dire, il y a certains de tes copains qui aiment cet hôtel. Et donc, du coup, on fait des intersections d'identifiants, et là, dans Redis, ça va extrêmement vite.
Alors qu'en base de données relationnelles, ça
ne marchait pas. C'est plus compliqué, ça va moins vite, c'est plus lourd.
La syntaxe se prête moins aussi.
Je sais pas si c'est une question de syntaxe, c'est aussi une question de... Il y a des entités, des concepts dans Redis, des primitives de données qui n'existent pas dans les modes relationnels et qui sont très bien.
Des concepts au-delà de la syntaxe qui collent mieux.
Voilà, après on utilise aussi du MongoDB par exemple. Donc là, MongoDB c'est une base qui est dans la famille NoSQL on va dire, qui est une base document, qui a l'avantage de pouvoir manipuler un document dans son ensemble, de pouvoir adresser des sous-parties de ce document-là, indépendamment du reste, avec des requêtes intéressantes, de pouvoir avoir un schéma plus ou moins flexible, c'est-à-dire que tous les documents d'une même collection.
Revenons à ton usage, qu'est-ce que tu vas mettre dans un document d'une base comme Mongo, la présentation d'un hôtel avec dans son arborescence toutes les informations
par exemple,
pour avoir un accès rapide.
Alors ça, on ne le fait pas encore sur les hôtels, mais il se pourrait bien qu'on se mette à représenter dans du MongoDB des données qui resteront stockés dans MySQL pour des facilités d'accès, pour découpler des données, dénormaliser des données, pour des facilités d'accès. Oui, notamment parce que le fait qu'un hôtel soit vendu par plusieurs centrales et qu'on présente les informations qui sont données par les centrales, les descriptions des photos, des notes, des ci, des ça, c'est intéressant qu'on ait une sous-partie marchand dans la fiche d'un hôtel qui soit arbitraire. Il n'y en a pas forcément 1, 2 ou 5 ou 10. Donc du coup, on profite de la souplesse de MongoDB pour ça. On l'utilise aujourd'hui, même si ça va tendance à évoluer, pour stocker la représentation de la recherche d'un internaute.
Ça marche.
Combien d'hôtels, quels sont les prix donnés par les partenaires, etc. On représente ça dans
un... Tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi, ça marche très bien dans le MVC pour ensuite appliquer une vue de manière et avoir un rendu finalement simple. On tire un objet sur lequel on peut déjà.
Je pense qu'il y a des cas où c'est possible. Il y a des cas où c'est possible. Pour nous, ça l'est pas.
Ça en fait, pas bien.
Moi, je croyais au début que j'allais pouvoir mettre dans mon MongoDB l'objet, le récupérer, le serialiser en Ruby et appliquer à la vue. Non, en réalité, c'est un peu une chimère. Je pense que dans certains cas, c'est possible, mais dans mon cas...
Justement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est pas possible pour
vous? Parce que tu vas pas forcément donner toute l'information qui est stockée dans ta base à ton internaute. Tu vas peut-être vouloir lui rajouter des informations qu'il n'y a pas dans ce truc-là.
Parce qu'il n'y a pas de vue unique, finalement, la vue dépend du contexte.
Ouais, voilà, et puis...
On en revient au problème de cache, c'est trop variable pour qu'on puisse cacher ça.
Non, pas forcément, parce que la fiche hôtel, elle change pas.
Elle change pas.
Tu sais que dans du MongoDB, tu stockais c'est le résultat de la recherche à l'intérieur de la Donc si je demande un hôtel à Paris, un hôtel à Lyon, entre le 19 et le 23 juin prochain...
Ouais.
Le résultat de cette recherche, donc finalement tout ce que tu récupères à différentes centrales d'achat,
c'est injecté progressivement au fur et à mesure. C'est ça qui permet justement à l'internaute de voir les résultats arriver. Mais...
C'est ton cache.
Non, c'est pas du cache, c'est un dépôt de données transitoire qui est là pour agréger toutes les informations statiques qui viennent de nous et des partenaires en mode catalogue et les informations temps réel directes des centrales sur les dispos et sur les prix.
Et donc une recherche, ça va être une entrée dans ta base MongoDB.
Oui, un document dans une collection. Oui.
Un document dans une collection.
Ouais.
Et au fur et à mesure que les différents prestataires, les différentes centrales d'achat te renvoient les prix, toi tu mets à jour ce document.
Exactement.
Et il se met à jour comme ça.
Exactement. On fait des mises à jour ciblées atomiques de ce gros document-là. Et par contre, quand on le récupère pour le présenter, on le récupère en bloc. C'était une raison pour laquelle on a choisi MongoDB parce qu'il permettait ces deux modes d'accès-là. On le récupère en bloc, et évidemment, on le reformate pour le présenter. Surtout qu'en fait, nous, on a une API interne et externe qui gère ça, et le site web hôtel interroge notre API. Donc on passe par on a un passage par du XML ou du JSON entre les deux, donc ça ne part pas dans de l'HTML direct. Mais oui, on récupère les données comme ça. Et...
Donc si une centrale te renvoie 1000 hôtels, il va y avoir un document qui va contenir la liste.
Ouais, alors en fait, au départ, c'est nous qui constituons la base de travail avec les hôtels tels qu'on les connaît. Mm-hmm. On interroge les centrales sur ces hôtels-là et on rajoute de l'information en provenance des centrales pour chaque hôtel sur les prix.
Et alors, ça se passe bien avec une base comme Mongo aller ajouter des compléments
non.
sur un même document.
Ça se passe mal.
C'est... D'accord.
Non, ça c'est quelque chose qui se passe mal et c'était une très mauvaise surprise. Je trouve que MongoDB est un très bon produit pour plein de choses, mais ça a été une mauvaise surprise qu'on n'a pas réussi à anticiper et qui nous a causé beaucoup de cheveux perdus. Mais c'est que en fait, quand tu fais des lectures en bloc et des écritures ciblées et surtout des écritures simultanées sur le même document, MongoDB il panique un peu et il verrouille, il fait des locks à tour
d'accord.
de bras. Alors que justement, on pensait qu'en faisant des écritures sur des sous-parties bien spécifiques de l'arborescence interne du document, on n'aurait pas ce problème-là, mais en fait, il verrouille le document et donc les choses attendent, il y a un engorgement là-dessus.
Voilà. Votre expérience, c'est qu'il verrouille tout le document, même si vous voulez faire une mise à jour sur une partie.
Il verrouille beaucoup plus, beaucoup plus que tout le document. En réalité, dans les versions 2.0 et 2.2, il verrouille jusqu'à la base de données entière.
Encore plus large que la collection de documents.
Ouais. La version 2.4 devrait aboutir à un verrou sur la collection. Aujourd'hui, on est un verrou sur base de données. Et pendant longtemps, on était un verrou sur serveur.
À quelle époque vous avez mis MongoDB en place?
Assez tôt, mais il y a un an et demi à peu près. Ouais. Au départ, on était sur du MySQL. Et là, on avait un problème inverse. C'est-à-dire qu'on arrivait à écrire très très bien. On écrivait des petits enregistrements dans une table. C'est la lecture agrégée. De dizaines de milliers de lignes d'un coup pour agréger tout ça qui était devenu un problème. Donc parce on a renversé la vapeur.
Ah oui, parce que dans le cas de MySQL, le grain est fin.
Exactement.
C'est facile d'aller pousser de l'information.
Voilà, exactement.
Et aller chercher l'information, il faut l'assembler.
Ouais.
Avec Mongo,
c'est l'inverse.
C'est très agrégé.
Ouais.
Facile d'aller chercher l'information.
Ouais.
Par contre, écrire des éléments, c'est sur des blocs plus gros.
Voilà.
La concurrence d'accès.
Exactement, c'est ça. Et là, on est presque en train de faire une migration sur une troisième génération d'approche, une troisième approche, qui revient sur le mode granularité fine, avec des outils qui facilitent la lecture extrêmement rapide. Donc là, on est sur une approche Elasticsearch, qui utilise des index Lucene, avec une vitesse d'indexation assez, voire très élevée, et une vitesse de lecture très élevée. Et en utilisant des choses très très optimisées sous le capot. Et ça donne... C'est pas totalement éprouvé encore chez nous, mais ça donne déjà des très bons résultats.
Et la migration d'un à l'autre, finalement, va être relativement simple, vu que ce que vous stockez, c'est des données éphémères, en fait, vu que c'est la recherche d'un utilisateur.
Oui, alors en termes de données, la migration est pas trop compliquée. Par contre, en termes de fonctionnement interne, là, c'est plus chaud.
Ouais,
en fait, en réalité, on a une première version de notre API qui va continuer à utiliser du MongoDB et qui va se déprécier tout doucement au profit de la nouvelle API, en plus qui a été l'occasion d'une réécriture, de tout un tas de bonnes pratiques mises là-dedans, etc., pour évoluer avec ça.
Et cette cohabitation même limite la prise de risque. Si à un moment donné,
vous sentez que
ça ne se passe pas comme prévu,
vous pouvez
toujours revenir sur cette solution MongoDB qui a des limites, mais... Certes, mais
elle fonctionne, et vous connaissez
les limites, vous les maîtrisez. C'est toujours mieux que,
que des nouveaux
problèmes.
C'est ça.
Les limitations que vous avez avec Mongo actuellement, ça se passe mal, ça se ressent du côté utilisateur?
Ça se ressent moins maintenant. On a beaucoup travaillé ces derniers mois, pour, y compris en termes d'infrastructure, pour que ça se ressente le moins possible. Mais forcément, si au lieu d'écrire 100 résultats dans la seconde, t'en écris 10... au global, ça se ressent un peu. C'est-à-dire que, par exemple, ça va se ressentir sur le temps qu'il faut entre le moment où il a cliqué sur le formulaire et le moment où il aura tous ses résultats. Mmh. Mais ça n'empêche pas qu'il aura des résultats qui vont arriver au fur et à mesure, mais ça arrivera moins vite.
D'accord.
C'est sûr que si on avait ce blocage derrière la barre de progression et qu'il fallait attendre des temps énormes, là, ça serait insupportable, quoi.
Ça se passe bien grâce à l'ergonomie dont on parlait avant, à savoir que vous lui délivrez l'information au fur et à mesure, que de toute façon, il va pas être en attente violente.
On essaye d'exploiter ça. Ouais.
Tout à l'heure, tu nous disais que votre schéma de base de données est quand même relativement stable, et que vous ne faites pas énormément évoluer.
Mm-hmm.
Mais quand on discutait auparavant, tu avais parlé de migration qui avait duré plusieurs heures.
Oui, alors quand on a des tables qui ont quelques dizaines de colonnes et quelques millions, voire quelques dizaines de millions d'enregistrements, si on veut rajouter un index parce qu'on se rend compte qu'on l'avait oublié, ou si on veut, ou simplement on optimise quelque chose, ou on fait des modifications de structure, on rajoute une colonne, des choses comme ça, souvent ça bloque, c'est-à-dire que ça, ça crée des verrous, au mieux sur les enregistrements, au pire sur les tables entières. Et ça peut être...
Spécifiquement MySQL.
Oui, 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 et là je parle vraiment de MySQL. Ouais, là je parle de MySQL.
Peut créer un index.
Oui, il y a, des choses comme ça.
Et c'est des logs en écriture.
C'est des logs en écriture, oui, c'est des logs en écriture, oui, parce que ça conserve la lecture possible, sauf que c'est en l'occurrence des tables qui sont beaucoup, beaucoup en écriture. Et donc du coup, bah, on a essayé d'appliquer des stratégies roulantes, hein, si on veut, non bloquantes. Avec des mécanismes de double table, avec des triggers qui vont écrire dans les deux, la migration se fait dans la table de copie, et puis il y a des buffers, etc.
On commence par dupliquer la table qui fait 10 millions d'enregistrements.
Ouais.
Ok. Donc on
alors, non, en réalité, non, je te dis une bêtise, parce qu'on duplique le schéma de la table.
Ouais.
On fait j'ai oublié le déroulement exact, mais non, on fait pas une copie complète au départ. Mais à un moment donné, t'as bien quand même une copie des données, forcément, une copie complète. Et oui, et là il faut avoir la RAM derrière, il faut avoir le serveur qui tient quand tu fais ça.
Bon. Donc on copie, on travaille, on fait l'opération qui doit être faite, par exemple l'ajout d'index sur la copie.
Exactement.
Et une fois que c'est fait, on resynchronise.
C'est ça, on rattrape le retard.
On rattrape le retard, et après on bascule.
Et après on bascule. Et ça se fait de manière transparente. Et il y a des outils, assez bas niveau qui permettent de faire ça, et des outils côté Rails, notamment dans des outils de migration qui fonctionnent comme ça. Des outils additionnels, voilà.
Des gemmes.
Ouais, il y a une gemme qui s'appelle LHM, c'est Large Hadron Migrator, qui est inspiré du Large Hadron Collider, qui est une grosse machinerie qui est faite pour travailler sur des tables avec des très très gros volumes et qui automatise ça.
Et donc vous aviez juste oublié un index, si je comprends bien.
Ouais, c'est arrivé qu'on oublie un index, mais des fois on a juste besoin de rajouter une nouvelle information dans cette table-là et.
Bien l'usage change. Hein.
Ouais, l'usage change. Ça arrive pas très souvent, mais ça arrive et voilà, il faut.
Et c'est vrai que sous MySQL, de rajouter une colonne, ça va.
Ça peut être bloquant. Ça peut être bloquant. Surtout si t'as des valeurs par défaut, par exemple. Si t'as une valeur par défaut qui est non nulle, il faut qu'il aille écrire cette valeur dans toutes les lignes, etc. Voilà. Ah, il y a des petits trucs rigolos comme ça.
Oui, alors j'ai été confronté à ça et la stratégie que nous on a eue, c'était de pas mettre la valeur par défaut dans le schéma, mais de l'appliquer justement en batch avec des scripts qui opéraient par lot, justement parce qu'on contrôlait mieux ce qui se passait plutôt que.
Il y a plein de stratégies intéressantes sur des questions de migration comme ça, des questions de déploiement sans downtime, des choses comme ça qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de confs, beaucoup en anglais d'ailleurs, mais sur des gens qui parlent de ces problématiques-là. Dans des grosses boutiques, quoi, et qui ont... Il y a plein de stratégies différentes selon les cas, mais il y a des... On peut maintenant vraiment faire des choses intéressantes.
En cherchant bien, on trouve les bonnes recettes.
Ouais, ouais.
Ouais, mais ouais. C'est toujours des moments, vu que c'est de la prod, ça va être relativement stressant de se retrouver avec sa petite migration qui prend une douzaine d'heures. Vous avez votre staging pour tester ces migrations.
Ouais, ouais. Sauf que staging n'a pas forcément 100% du volume de données de la prod. Et des fois, il y a des choses qu'on se disait, pour lesquelles on se disait, la migration, elle a pris 2 minutes en staging, peut-être qu'elle va prendre 15 minutes en prod. On va pas se prendre la tête, on va faire un downtime en plein milieu de la nuit. Sauf que pour une raison qu'on ignore, en fait, ça n'a pas pris 15 minutes, mais 2 heures. Et là, tu es derrière ton truc, tu vois pas de barre de progression et tu stresses parce que ton site, il est down depuis 2 heures. C'est arrivé une fois ou deux. Bon, voilà, après, on apprend, quoi.
Et puis, vous testez le retour en arrière, rollback aussi.
Ça arrive.
Vérifier que si jamais il y a besoin d'annuler la migration et de revenir en arrière, ça va bien se passer.
Oui, ça arrive. Et il y a des choses pour lesquelles on a eu besoin de revenir en arrière et ça s'est bien passé. Des choses qui se sont moins bien passées. Il y a eu des fois des surprises, des mauvaises surprises, des petites sueurs. Ouais.
Je vais revenir sur les API des nouveaux prestataires.
Oui.
Donc on a parlé des catalogues tout à l'heure, tu me disais que c'était du CSV, du XML, du JSON, il y avait des API ou pas, des fichiers à télécharger. Comment ça se passe quand vous vous interrogez pour les disponibilités des hôtels?
Alors, on a grosso modo un web service par partenaire, ils fonctionnent tous différemment, ils ont tous une structure de données différente, il y a beau y avoir un standard, personne ne l'utilise, sauf un. Des technologies
celui
différentes.
Qui a posé le standard?
Non. non. Mais donc, il y a une très très grande diversité. On attaque des web services qui sont écrits en Perl, on attaque des web services qui sont manifestement écrits en Java, d'autres qui sont écrits avec du PHP, d'autres on sait même pas. Et l'intérêt du web service, c'est qu'on n'a pas à savoir, d'ailleurs. On se met d'accord sur un schéma. Ils ont tous une grammaire, entre guillemets, une sémantique différente. Je pense que si j'avais le temps, je pourrais écrire un livre noir, et pas un livre blanc, mais un livre noir des web services et des API. Et c'est une grosse, grosse prise de tête.
Et vous arrivez quand même à avoir un certain niveau d'abstraction au niveau de vos...
Assez peu, malheureusement assez peu. Alors oui, on a écrit des couches, hein. Moi j'ai des classes métiers qui correspondent à chaque partenaire, à chaque web service, en essayant qu'elles aient une interface la plus commune possible pour que nos outils en interne se branchent là-dessus et utilisent des choses abstraites, mais c'est pas toujours possible.
Mais quoi, le modèle sous-jacent n'est pas le même.
Ah non, non, jamais, ouais. jamais. T'as des hôtels qui te donnent, des centrales qui te donnent une très faible quantité d'informations, d'autres qui te donnent une forêt de choses. Certains, c'est sur des données quasiment dans du XML, mais avec un seul niveau d'indentation. D'autres, t'as 45 niveaux d'imbrication de données. Très 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 hétérogène et ça va avec le boulot mais ça va avec le métier mais c'est une grosse prise de tête sans compter que en moyenne une fois par an il y a des évolutions chez chacun donc ouais. Et puis de temps en temps c'est pas des évolutions mais c'est des changements majeurs qui nous apportent des choses et donc on mire ou qui nous apportent rien mais on est obligé voilà c'est...
Il y a la coordination, vous êtes prévenu suffisamment à la...
souvent souvent
pas de surprise
des fois si
quand même
des fois c'est des surprises. Des fois, on a un partenaire qui nous dit « Ah, on va faire des petites opérations de maintenance, on va couper pendant 6 heures dans la nuit. » Et puis ça, c'était il y a 15 jours et l'API n'est toujours pas revenue. Mais bon, mais ça, c'est une panne, c'est pas des migrations, c'est pas des changements de données auxquels...
C'est pas au fait, on a changé l'API la semaine dernière.
Ouais, c'est arrivé, mais sur des petites choses où ils pensaient que c'était pas grave et que, en fait... Après, tout dépend aussi de la documentation qui est fournie. Quand t'as une doc qui est super claire, ton implémentation, elle va être fidèle, si tu fais bien ton travail. Si t'as une documentation qui te dit pas la plage entière de données que tu peux attendre derrière une clé, ben, tu peux faire des interprétations qui sont imparfaites. Mais
c'est bien, parce que vu comme votre système est fait, en fait, vous avez le catalogue en local,
oui.
Pour vous, c'est pas un problème qu'il y ait un partenaire qui soit justement HS pendant...
Alors, si on a un partenaire qui est HS et que c'est très peu longtemps, ben, on va continuer à l'interroger, simplement on va se retrouver avec des codes d'erreur, mais c'est pas très grave, on gère ça. Si les HS pendant longtemps, on va entre guillemets le débrancher, mais effectivement, en termes de catalogue, nous on peut, mais d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui consultent notre site sans faire d'interrogation de prix, juste ils regardent quels sont les hôtels qui sont à Lyon, quels sont les hôtels qui sont à Paris, quels sont les hôtels qui sont à Bangalore. Ils peuvent consulter le catalogue en mode offline, enfin offline, non connecté à la disponibilité réelle, et ils peuvent à un moment donné dire, bah oui, il est vendu par un tel, je vais cliquer, et on y va. Simplement, on y va, mais on n'aura pas de date, on n'aura pas de prix, simplement on va tomber sur le site web en question. Donc ça continue de marcher en général.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle du deep link, c'est du lien sortant. Hein,
qu'on appelle comment, tu dis ?
Deep link, c'est un lien profond dans le sens où c'est un lien qui t'amène sur... D'accord. Ça t'amène pas sur la page d'accueil du partenaire, ça t'amène en général sur la page de l'hôtel en question, et s'il avait au préalable saisi des dates, pour les dates en question,
contextualiser,
etc. etc. Ouais.
Donc tu vas voir, par exemple, que tel hôtel est vendu par booking.com, par exemple. Sans le prix,
oui.
Et en cliquant, tu vas aller sur la page de l'hôtel chez booking.com.
Et on a même des partenaires qui, sur des critères particuliers ou même avec accord pendant longtemps, on n'avait pas de dispo en temps réel, on avait le catalogue mais pas de dispo, on avait toujours un lien. Si on voulait savoir les prix, il fallait aller sur le site. Mais on faisait du business avec eux parce qu'il y a quand même des gens qui disaient, bah oui, accord, je veux parce que j'ai ma carte accord, ma carte de fidélité. Ouais. C'est ça qui m'intéresse, je vois que cet hôtel est vendu par accord, boum, j'y vais. Et voilà. D'accord. Donc ça marche quand même, c'est pas cassé quoi.
Quelles sont les évolutions à venir pour Hôtel ? Vous avez une roadmap sur les... prochain...
Ouais, on a un million d'idées, on sait qu'on veut travailler beaucoup sur l'ergonomie, la performance, la vitesse, pour que les données arrivent le plus vite possible à l'internaute. C'est un facteur décisionnel primordial sur le choix. On est dans un monde de e-commerce, hein, même si nous, on n'est pas les vendeurs directement. Il y a ça. Il y a aussi apporter plus de richesse dans l'information, plus de capacité à filtrer, à trier les données, etc. Par exemple, aujourd'hui, on est limité à 4 personnes sur... jusqu'à 14 jours de séjour, on aimerait bien pouvoir composer des chambres, dire combien il y a d'enfants, quels sont les âges des enfants, multichambres, des choses comme ça, ce que nous, on ne sait pas faire aujourd'hui. On ne sait pas le faire parce que les partenaires ont une manière extrêmement hétérogène de gérer ces questions-là, et on n'a pas réussi et on n'a pas pris le temps de consolider tout ça. On est malheureusement trop sur le plus petit dénominateur commun sur certains critères, et on essaye d'apporter notre valeur n'étant pas que sur le petit dominateur quoi.
Et du coup d'autres technos à essayer pour repousser les limites.
Ouais.
Vous êtes un peu un labo finalement. Vous essayez.
On est constamment en train d'expérimenter. Ouais. Puis des fois il y a des expérimentations qui partent en prod parce que ça marche. Puis d'autres qui elles partent en prod et puis vite on les enlève parce que c'est pas concluant.
Est-ce qu'il y a un blog des développeurs sur lequel on peut trouver?
Non. Malheureusement, non. On est vraiment une micro-équipe quand même. Par rapport aux ambitions qu'on a et par rapport au fonctionnement du site, on est une micro-équipe et on n'a pas assez le temps de ça. On essaye de contribuer le plus possible aux projets qu'on utilise, à faire des remontées de bugs, à proposer des patchs, etc. Mais on ne contribue pas autant à l'open source qu'on aimerait. On utilise énormément d'open source. Mais voilà, donc il y a des choses comme ça qui viendront plus quand on aura plus de visibilité.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, quelque chose que tu aimerais peut-être partager à la communauté Ruby francophone ?
Ou mondiale, d'ailleurs.
Ou mondiale. C'est vrai que je suis beaucoup plus à l'écoute et de la communauté anglophone que francophone. J'ai été un peu frustré au début du peu de vivacité de la communauté francophone. Puis
de ne pas avoir de micro.
Des prises de tête. Voilà, mais je trouve que ça a tendance à s'améliorer. Il y a de plus en plus d'apéros Ruby, de meet-up, de ci, de ça. Bon, il y en a évidemment à Paris, on connaît bien. Voilà, il y a Lyon RB ici, il y a Pastis RB qu'on a lancé à Marseille, il y en a d'autres ailleurs. Ouais, moi j'ai bien la fibre communauté, échanges sociaux, échanges techniques, etc. Donc il faut faire vivre ça et...
Allez-y.
Et voilà, se retrouver, discuter, quand on est passionné, de passer du temps ensemble et de se montrer des choses.
Et puis c'est vrai que la France, c'est pas un grand pays. Et c'est assez agréable, je trouve, de pouvoir comme ça aller dans les différents meet-up finalement. Aller à Paris RB ou Lyon RB ou Bastis RB. Bah, c'est juste à quelques heures de.
Même pas besoin de prendre l'avion.
Ouais, Marseille-Lyon, c'est 1h40, voilà, c'est facile.
Et puis c'est vraiment facile de trouver un hôtel en plus.
Bah oui, avec Hôtel-Hôtel évidemment.
Hôtel-Hôtel, bien sûr. Voilà. Merci.
Eh bien, merci à vous.
Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode de Parlons Ruby.
Et j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la billetterie pour RULU 2013. RULU, c'est la conférence Ruby à Lyon. Ce sera le jeudi 20 juin et le vendredi 21 juin. Il y aura d'abord une journée de conférence, suivie de festivités, puis une matinée d'atelier, et je peux déjà vous annoncer un atelier sur Rails 4, un coding dojo et un atelier Ruby Motion avec Laurent Sensonetti. La billetterie ouvrira ce jeudi 9 mai à 16h heure française avec des billets à prix réduit, et l'équipe de RULU 2013 vous attend. À bientôt.